Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Au sommaire de cette émission, dans cette première partie, donc quelques news de la planète polar. Vous venez d'entendre la bande-annonce du festival Polar à Drape, on va vous en reparler un petit peu, Agora FM est partenaire. Vous en avez déjà entendu parler, mais on va insister un petit peu, en particulier sur les auteurs dont on parle régulièrement ici. Puis nous aurons Jean-Marc Laherrère qui nous fera sa chronique, on va dire pratiquement mensuelle. Et dans une deuxième partie, nos coups de cœur nous emmèneront aux États-Unis, mais aussi dans les siècles passés. Ça, c'est plus rare. C'est pas souvent qu'on parle des polars qui se passent dans les siècles d'antan. Donc, je parlais de Drape, 4-5 février, plus de 25 auteurs de polars présents pour rencontrer un public qu'on espère évidemment très nombreux. Va faire froid ce week-end. Ça a déjà bien commencé. Donc, venez donc vous réchauffer et écoutez une des tables rondes ou animations. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Vous pourrez laisser les plus jeunes dans des ateliers et puis ainsi venir discuter, je dirais, un peu plus sérieusement avec les écrivains présents. Pour vous attirer, allez, l'apéro, c'est samedi 17h. Hein. Bon, on va vous reparler un petit peu des auteurs qui ont fait l'objet d'une chronique cette dernière année. D'abord, on va parler de Marin Le Dain. On en a parlé il n'y a pas longtemps, puisqu'il a eu le trophée 813 du meilleur roman francophone pour un magnifique livre qui s'appelle « Visage écrasé, grand roman noir social » qui décrit en une narration subtile la souffrance des employés dans une plateforme téléphonique. C'est vraiment très très bien fait. On est en période préélectorale, ça je pense que vous pouvez pas le louper. Donc, je ne saurais trop vous recommander de lire ou de relire d'ailleurs, French Tabloïd de Jean-Hugo Pell, ou comment certains cercles du pouvoir bien discrets peuvent manipuler à loisir l'opinion publique et donc le vote de citoyens. Ça peut vous servir en fait. Comme le cite l'écrivain français, le pire ennemi du peuple, c'est son gouvernement. Attention, c'est pas de Jean-Hugo Pell hein, cette citation, c'est de Saint-Just. Mais bon, j'ai un choix encore toute sa tête, du moins nous l'espérons. Vous pourrez aussi découvrir Joséphine Cardona, dont 220 volts est une jolie variation de roman noir, mais il y a aussi le précédent, Lonely Betty. Il est aussi scénariste de bande dessinée, donc vous pourrez retrouver Fausse Route, Dans les Corps. D'ailleurs, l'éditeur de Incardona est de la région. Ça se passe dans le coin. Un auteur qui vient régulièrement, c'est René Frény. Là, il arrive auréolé de son tout dernier trophée, puisqu'il a eu il n'y a pas longtemps le prix des lecteurs de Moinsartout pour son roman paru chez Gallimard, La fiancée des corbeaux. Donc, il sera fidèle au rendez-vous. Par contre, un petit nouveau, très connu en France, dans le circuit des festivals de polar, parce que il écrit depuis quelques années de très bons romans, Pascal Dessin, qui vient donc pour la première fois. Et je vous recommande ces deux derniers romans, Les derniers jours d'un homme, ça c'est l'avant-dernier, et le petit dernier, un petit peu plus léger, qui s'appelle Le bal des frelons. On va parler du parrain de l'édition, c'est Marc Villard.
Marc Villard, oui.
Marc Villard, grand écrivain français, il est passionné de musique, donc puisque le thème est la musique, c'était tout normal que ce grand écrivain soit notre parrain. Ses romans, ses nouvelles sont souvent justement empreinte d'un rythme, d'une scansion jazzy, bluesy, ou parfois complètement rock. Mais là, vous allez avoir le choix parce qu'on peut vous conseiller plein de choses. C'est un spécialiste de la nouvelle et vous allez avoir plein de recueils de celles-ci, souvent d'ailleurs toutes en autodérision. Il y a aussi les bandes dessinées, il est scénariste, magnifique la guitare de Baudidley. Là, c'est
mise en image par Jean-Christophe Chosy.
Voilà, grand, grand dessinateur. Ou bien sa dernière, dont le titre est franchement très alléchant. J'aimerais être un saint, mais bronzé. Ça a l'air quelque chose. Évidemment, n'oubliez pas ses romans, comme Cœur simple ou Lien, La dame est une traînée. Ou alors ce joli objet littéraire, moitié roman, moitié docu, Sharon Tate ne verra pas Altamonte. On avait d'ailleurs reçu Marc Villard pour parler de cet objet littéraire. Et puis vous allez pouvoir faire un aller-retour entre Marc Villard et Jean-Bernard Puy, puisqu'ils ont coécrit 3 recueils de nouvelles chez Rivage, et que Jean-Bernard Puy revient aussi cette année à Drape. Donc, trois jeux littéraires au nom évocateur. Alors, je cite dans le désordre, je ne sais jamais lequel est le premier, lequel est le dernier. Donc, un recueil s'appelle Zigzag, un autre Tohu-Bohu, et le troisième, Jacques, A.A. Ping-Pong.
Ping-Pong.
Ping-Pong. Voilà. Quand vous serez sur le stand de Jean-Bernard Puy, vous y resterez un long moment. Je rappelle que...
Un long moment. Ou un long roman aussi, d'ailleurs aussi, mais...
Oh, il est pas... C'est plutôt des romans assez courts, hein, Jean-Bernard Puy. Mais il y en a 50. Enfin, ils seront peut-être pas tous sur le stand, ceci dit. Voilà, plein d'autres choses à découvrir, d'autres très bons auteurs. On n'allait pas citer les 25. Encore une fois, on a parlé de ceux qui avaient fait l'objet d'une chronique cette dernière année dans l'émission Onde Noire. Et Jacques, un titre de circonstance, me semble-t-il.
Un titre de circonstance, tout à fait. Le groupe s'appelle Red Hot Chili Peppers, vous les connaissez sûrement. Le morceau s'appelle Snow Hey Ho. Même cet extrait du CD Stadium Arcadium. Évidemment, la neige dont il parle dans ce roman n'est peut-être pas forcément celle qu'on trouve sur nos trottoirs dans le coin, mais après tout, ça dépend de votre maîtrise de l'anglais. Je vous recommande d'écouter la très belle partie de guitare de John Frusciante.
Eh bien, après ce snow, attention, snow, pas slow, on a le plaisir d'accueillir Jean-Marc Lairère. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir.
Et vous allez nous parler d'un romancier, on va dire trop tôt disparu, même s'il n'était pas très très jeune, mais en tout cas, vu sa production littéraire, on aurait bien aimé encore qu'il devienne centenaire.
Ah oui, puisqu'il s'agit de Donald Westlake, qui est mort il y a maintenant un peu plus de 3 ans.
Déjà, mais, mon Dieu.
Et oui, oui, c'était le 31 décembre 2008. J'ai vérifié justement avant de.
Ah ouais. Avant je me souvenais bien du 31 décembre, mais j'aurais pas dit 3 ans. Hein.
Voilà, et oui. Mais on n'a pas l'impression qu'il est mort parce que ben, on n'arrête pas de découvrir ses romans en France ben, au gré de rééditions fort bienvenues et puis aussi au gré d'une édition toute nouvelle de ce roman dont je vais vous parler qui s'appelle donc Mémoire morte de Donald Westlake qui est publié chez Rivage et traduit par Gérard de Chergé. Alors, ce Mémoire morte, ça a été une découverte pour les Américains aussi, puisque c'est un roman qui a été écrit dans les années 60, mais qui n'avait pas été publié, qui avait été refusé à l'époque, et qui a donc dormi dans un tiroir jusqu'en 2010, où il a été exhumé et publié. Alors, on ne sait pas ce que serait devenu Westlake si ce roman avait été publié en début des années 60, parce que c'est un roman totalement différent de sa production habituelle, on va dire. Rien à voir avec Dortmunder, rien à voir avec Parker, rien à voir avec tout ça.
Je précise pour les auditeurs qui ne les connaîtraient peut-être pas que ce sont les deux héros récurrents de Donald Westlake qui ont donné je ne sais pas combien de romans.
Ouais, moi non plus, je ne sais pas. Donc Dortmunder, c'est un cambrioleur qui a beaucoup de malchance. Les romans de la série Dortmunder sont très 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 drôles. Parker, c'est le pendant efficace et un peu parfois un peu sanguinaire,
pas
sanguinaire,
très noir.
Disons très efficace, très noir. Voilà. Et là, on est dans autre chose. Donc, qu'est-ce qui se passe? On suit un personnage qui s'appelle Paul Cole, qui est acteur. Enfin, il était acteur. Il était acteur jusqu'au moment où on le retrouve, où il s'est fait surprendre pendant une tournée. Il s'est fait surprendre par un mari jaloux alors qu'il était avec la dame dans la chambre d'hôtel. Il s'est fait tabasser. Il est tombé dans le coma. Et au moment où il se réveille de son coma dans une petite ville dont il ne se souvient plus du tout, eh bien, il commence à avoir des pertes de mémoire. Donc, il a bien des papiers qui disent qu'il est Paul Cole. Il a quelques vagues souvenirs qui lui disent qu'il devait bien habiter New York à un moment. Et puis, il a des cartes de syndicats qui lui disent qu'il était acteur de théâtre. Mais c'est à peu près tout ce dont il se souvient.
C'est donc, dur de perdre la mémoire quand on est acteur de théâtre.
Voilà, c'est pas bon pour le métier. Et en plus, manque de chance. Comme il doit payer, bien sûr, nous sommes aux États-Unis, il n'y a pas de sécurité sociale ni rien, avec les frais d'hôpitaux qu'il doit payer, il lui reste à peu près de quoi aller à 50 km de là où il se trouve. Et en plus, il est obligé de partir parce que le shérif local ou le flic local veut le virer parce que bon, l'adultère, dans ces petites villes où il est tombé, ça ne se fait pas. Donc il part, il prend un bus en direction de New York, il s'arrête quand il a plus de sous, et il se met à bosser dans cette ville, puisqu'il faut qu'il travaille pour se gagner l'argent pour son billet de bus. Et au fur et à mesure qu'il travaille, il perd la mémoire. Cette mémoire revient pas. Il en finit par oublier par moment qu'il était acteur. Alors il se laisse des petits mots partout pour pas oublier qu'il doit retourner à New York. Alors il a écrit partout qu'il doit retourner à New York, il sent bien que c'est très important pour lui, mais il ne se souvient plus très bien pourquoi, et il n'y a rien qui revient. Et on va suivre cette plongée, là, ce naufrage dans une grisaille d'un homme qui était un peu glamour. Alors, c'était pas Paul Newman non plus, mais c'était quand même un acteur qui avait une certaine aura. On va l'apprendre quand même au fil des pages. Et qui va sombrer dans une grisaille où il va devenir un homme ordinaire et même pas ordinaire, puisqu'il sera même quelquefois d'une semaine sur l'autre, il y a des choses qu'il oublie. Et c'est un roman totalement désespéré.
Qui a l'air carrément désespérant.
Désespérant, désespéré. Et voilà, c'est pour ça, je pense, peut-être qu'il n'a pas été accepté par un éditeur de l'époque qui voulait plus de punch, quelque chose d'un peu plus qui accroche dans
Oui, c'était plus l'époque des tough guys et des romans policiers un peu plus classiques que des romans noirs.
Voilà, et c'est donc effectivement assez loin de ce qu'on connaît de Donald Westlake.
Oui, mais on a l'impression qu'on retrouve un peu qu'il a retrouvé un petit peu cette veine-là dans un roman célèbre qui a fait l'objet d'une adaptation, Le Couperet.
Voilà, alors Le Couperet a quand même beaucoup plus d'action, on va dire, puisque là, on s'aperçoit qu'il ne se passe pas grand-chose, mais on se fait accrocher, c'est terrible, il y a pas de révélation fracassante, il n'y a pas un grand mystère, il n'y a rien.
Il n'y a pas de meurtre apparemment.
Non, il y a juste un homme qui sombre petit à petit à la recherche de lui-même et qui se trouve jamais. C'est d'une sobriété exemplaire. La progression dramatique, elle est très subtile et la fin est d'une noirceur totale, sans meurtre, sans rien de tout ça. Donc c'est vraiment très très étonnant. Alors la seule chose peut-être qui peut faire penser à Donald Westlake, je n'y aurais jamais pensé tout seul, mais j'ai vu une fois un documentaire où il interviewait Tonino Benacquista, qui disait combien il admirait Westlake, et il disait comment c'est un auteur qui a une capacité incroyable à prendre une situation très cliché, archi connue, et à la retourner comme une crêpe pour en faire quelque chose de totalement inédit. Et finalement, c'est ce qu'il fait là aussi, parce qu'il prend l'amnésie...
Oui, bon, le loser...
Et puis l'amnésie, que dans le polar, il y en a quelques-uns. En général, c'est soit un super flic, soit un super truand, soit un super agent, qui petit à petit, quand il se trouve dans des situations dangereuses, se découvre des réflexes insoupçonnés, et puis se redécouvre un secret pour lequel il est devenu amnésique. Ben non, Westlake, lui, il prend ce point de départ classique, et il en fait l'inverse. C'est pas du tout un type dangereux. Il découvre rien de bien étonnant et tout ce qu'il fait, c'est de sombrer petit à petit là-dedans. Donc, là, voilà, ça c'est du Westlake par contre.
Ouais,
de
prendre une situation. Complètement une histoire classique pour
exactement.
En faire du Westlake.
Voilà, de nous amener là où on ne s'attendait pas du tout à aller. Alors, c'est très très fort. La dernière phrase qui pourrait être presque donner un espoir, c'est la dernière phrase, je vous la dire, c'est il aurait pu pleurer en cet instant, enfin. Mais la fille revenait déjà.
D'accord.
On pourrait presque croire que c'est optimiste.
On pourrait croire, oui, la fille revient.
Mais quand on lit et qu'on lit ce qu'il y a avant, en fait, c'est le dernier clou dans le cercueil, quoi. C'est terrible. C'est très, très, très fort. Ça éclaire l'œuvre de Westlake, peut-être d'une lumière étonnante. Bon, alors, est-ce qu'il faut regretter qu'il n'ait pas été publié ou est-ce qu'il faut se réjouir? Parce que peut-être qu'il n'aurait pas écrit Dorkmunder s'il avait été reconnu comme un grand auteur de noir très sombre.
Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il s'appropriait un peu l'univers de quelqu'un comme Jim Thompson, par exemple. Personnage perdu dans un petit village des États-Unis, on le retrouve dans ses romans, Thompson ou...
Voilà, moi je penserais presque à Goodies plus, parce que Thompson, ils ont un côté méchant par moment.
Oui, c'est vrai.
Tonic Suet, il n'est même pas méchant. Il est juste perdu. Voilà, donc vraiment très très étonnant. Et ce qui est étonnant, c'est de découvrir 3 ans après sa mort qu'il y a encore des... Alors combien il y en a encore des romans comme ça dans les
Il doit y en avoir quelques-uns, parce que nous, quand on l'avait interviewé, c'est vrai qu'il nous avait raconté à quel point il était, entre guillemets, piscopie dans les années 60, quand il a commencé à écrire. Et il doit y avoir du très très bon, et puis du moins bon, mais nous, en traduction, je pense qu'on trouvera le très bon.
Là, c'est du très bon. Alors, entre ça et les rééditions que fait Rivage des Dorkmunder, justement, et des Parker, qui n'étaient pas faciles à trouver dans des vieilles séries noires, il y a vraiment de quoi encore se régaler avec Westlake.
Il y a de quoi remplir sa bibliothèque.
Pendant un petit moment, oui.
À la lettre W. Jean-Marc Lehrer, le temps passe. Notre première partie d'émission est terminée. On vous remercie beaucoup. Et puis la prochaine fois, essayez de nous trouver quelque chose d'un peu plus drôle. Hein.
D'accord, on fera plus rigolo.
Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marc. À bientôt.
Bonne soirée. Au revoir.
Bonne soirée.